La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en compagnie pour ce troisième épisode de Marie-Francine Le Jalut, documentariste. Bonjour.
Bonjour.
Et d'Antoine de Flandre qui intervient donc dans ce documentaire « Droit dans les yeux » réalisé par Marie-Francine Le Jalut, consacré à la clinique juridique de l'université Paris 8 Saint-Denis. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors nous avons parlé du travail de la documentariste, même si nous n'avons pas épuisé l'entièreté du sujet. Nous avons parlé des étudiants qui étaient inscrits dans cette clinique au titre la plupart du temps d'un diplôme universitaire et donc se relayer tous les ans pour assurer cet accueil des justiciables. Et nous avons parlé également des justiciables. Il nous reste un petit peu, en forme de conclusion, un petit peu à nous interroger sur le droit, sur vos connaissances, sur les rapports que le droit entretient avec la justice, à la fois vu par un praticien de la justice, puisque vous êtes avocat, Antoine, et par une néophyte, mais qui, à force de fréquentation, a fini par capillarité à apprendre un certain nombre de choses et sur le droit et sur la justice, c'est-à-dire Marie-Francine Le Jalut. Nous pourrions commencer par un premier extrait.
Nous, notre devise, c'est notre devise. Liberté, égalité, fraternité, c'est censé être la base. Donc la loi, elle doit poursuivre cet objectif. Après, est-ce qu'elle le fait toujours? Le droit, c'est nous, mais toutes ces règles, c'est super intéressant comment elles se construisent, d'où elles viennent, comment elles se construisent, il y a souvent une histoire. Pourquoi elles sont nécessaires? Pourquoi elles changent d'une époque à l'autre? Elles doivent être le reflet de notre volonté. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce qu'elles vieillissent? Est-ce qu'elles... Tout ça, c'est super intéressant. C'est apporter des solutions en accord avec nos valeurs.
Alors, ce droit, cette définition du droit, cette approche du droit que vous aviez, Antoine, à l'époque, il y a quelques années, au moment du tournage du film.
Qu'est-ce que j'aimais avoir le temps de réfléchir à tout ça. J'ai adoré mes études qui m'ont permis d'avoir ces réflexions-là. Maintenant, c'est vrai que je maintiens ces propos. Ça doit être le reflet de notre volonté et ça doit être... C'est un jugement de valeur qui nous définit un petit peu, avec lequel on est d'accord ou pas, qui doit changer, qui doit évoluer. Voilà, à un rythme, avec un système qui permet... Que cette évolution soit assez qu'elle reflète vraiment, qu'elle reflète au moment où elle existe notre réelle volonté. C'est le système qui veut ça, enfin l'évolution de la règle, voilà, c'est nos institutions qui le permettent. Est-ce qu'elles le permettent assez bien? Est-ce que je pense que c'est un objectif qu'il faut travailler sans cesse, puisque le reflet d'une volonté unique et uniforme, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Comment elles sont mises en œuvre, je pense que c'est aussi un objectif, qu'elles soient bien mises en œuvre, c'est aussi un objectif qui est un peu utopique, parce que y a des contraintes. Moi je le vois de plus en plus en étant avocat, je me rends compte qu'il y a des objectifs et puis des réalités qui se confrontent, qui ne sont pas incompatibles, puisque finalement j'ai l'impression que c'est souvent une question de moyens. Mais je suis dans différentes procédures qui, au moment où elles seront tranchées, je le sais d'avance, la problématique sera presque plus d'actualité pour les justiciables. Donc je sais déjà que la justice, c'est pas une attaque, mais qu'elle a pas les moyens de faire appliquer comme on le souhaiterait les règles qui existent. Et là, je me rappelle, dans cet extrait, c'est pas repris, mais je cite les grands textes fondamentaux et je dis, mais c'est magnifique. Et, presque comme si, comme des textes religieux, voilà, on proclame l'égalité pour tous, on proclame le droit à la vie, le droit au logement, enfin, toutes les libertés les plus essentielles et importantes. Et puis, et quand on est à la clinique juridique, et ben, on entend que c'est un objectif sacrément lointain pour certains. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ces textes ne doivent pas exister et que tout ça, c'est de l'hypocrisie ? Non. Ça veut dire que c'est un objectif, c'est des valeurs dont on poursuit la
quête.
La quête. Et finalement, moi, je trouve qu'elles sont déjà depuis longtemps assez bien définies. Ces objectifs-là, ils sont finalement assez bien définis depuis un certain temps et qu'on fait que s'améliorer dans leur mise en œuvre, mais que c'est jamais acquis. Et qu'il ne faut pas oublier, moi ça je le dis souvent depuis que je suis avocat, et donc je vais terminer ce que m'a dit ce juge. J'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'avait dit, voilà, votre travail d'avocat, ce sera de faire une traduction. Et en fin de stage, il m'a dit, en fait, votre vrai travail, ce sera de faire accepter que des justiciables n'aient pas gain de cause. Parce que, en fait, finalement, cette quête de justice, elle est imparfaite. On est dans la justice des hommes et il faut l'accepter. C'est des hommes qui jugent d'autres hommes avec toutes les imperfections que ça peut comprendre.
Et à un moment donné.
Et à un moment donné. Et
dans un contexte de données.
Exactement. Et c'est pas voué à l'échec. Heureusement, la justice passe et peut avoir beaucoup de vertus, parfois même dans l'échec. Il y a des personnes qui poursuivent des demandes et qui en réalité avaient besoin d'être entendues. Et donc on a chacun nos moteurs, on a chacun nos nœuds, et on les soumet à un service public, à une administration judiciaire qui fonctionne grâce à un budget qu'on lui donne, qui est voté, qui a des réalités bien concrètes. Donc derrière ces objectifs utopiques, qui a des réalités bien concrètes, moi je pense que ça va en s'améliorant. C'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant à bien des égards, et il y a encore beaucoup de travail. Mais ça va en s'améliorant. Je veux pas être pessimiste, mais parfois c'est décourageant. Mais je pense qu'on n'a jamais été... aussi, moi je me rends compte que déjà d'où je viens, on voit cet étudiant de Saint-Denis, et puis entre temps je suis devenu avocat et maintenant je suis indépendant, et j'arrive moi avec cette petite expérience à obtenir des choses de cette administration judiciaire qui impacte la vie de certaines. Je trouve ça incroyable déjà à cette échelle là qu'on ait des leviers pour obtenir des choses d'un système qui, on peut le critiquer, à certaines propositions qui fonctionnent. Donc voilà, je veux qu'il y ait les deux l'aspect positif dans ce discours et de pas s'en contenter, parce que c'est mon travail de jamais se contenter. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je veux regarder, mais aussi de pas accepter que le verre reste à moitié vide.
Oui, mais parce que effectivement, utiliser le mot utopie par rapport à la justice pour les personnes concernées dans des situations concrètes, c'est inaudible en fait.
Mais c'est presque un piège, parce que la justice, c'est le nom d'une vertu.
Ouais.
Et ça, je réemprunte les propos d'un ancien confrère du Pont-Moretti qui le dit bien. On peut ne pas être d'accord avec forcément tout ce qui peut être dit, mais là-dessus, je partage sa position, parce que la justice, c'est une vertu, mais en réalité, c'est un service public. Donc, oui, c'est une administration judiciaire. C'est pas la justice.
Tout à fait.
La justice, c'est un jugement de valeur propre à chacun. On a peut-être, pour une situation donnée, chacun le dénouement juste différent. Je pense que ça, il faut le désancrer de sa tête. Trouver un conseil qui explique bien que rationaliser une problématique pour des gens qui attendent tout de cette justice, mais presque des fois justice divine. C'est une prière qui demande. C'est pas un jeu de conclusion. C'est des doléances divines. Donc rationaliser cette problématique et ne pas oublier qu'il y a des contraintes, que ça peut générer de la frustration, mais aussi générer beaucoup de dénouer des situations, dénouer des vies, ça existe aussi. Il y a des manières dont la justice a traité des problématiques qui ont pu être très mal appréhendées par certaines personnes et d'autres, mais vraiment remplir tous ses objectifs, mais vraiment d'avoir été entendu, d'avoir été reçu, que la demande ait été traitée, bien reçue dans notre approche, dans notre jugement de valeur, et que, comme on dit, justice a été rendue, et voilà.
Justice est passée.
Justice est passée. Et parfois, non, l'administration judiciaire a tranché, et voilà ce que c'est. Voilà les recours qui existent, exercez-les. Voilà la décision après recours. Ça y est, l'histoire est finie.
C'est terminé, oui.
Accepté, parce qu'il n'y aura pas d'autre, manière de
pas d'autre issue.
Pas d'autre issue.
Un écho à ce que vous venez de dire, Antoine, on va écouter un nouvel extrait.
Si on est là, parce qu'on est vraiment perdu, on a besoin de vous. Et j'approuve.
Aider les gens à être plus conscients de leurs droits, à s'armer un peu plus, à être moins désarmés, quoi. Moins en détresse parfois. Parce qu'il y a des situations qu'on peut éviter si on savait un minimum. Le fait juste d'éditer des lois, de les publier et de dire oui, maintenant c'est connu du public parce que c'est publié, c'est pas suffisant. Ma mère, par exemple, est illettrée. Elle n'a pas été à l'école. En quelque sorte, elle est désarmée. Elle a été désarmée.
Le savoir juridique est une arme.
Le savoir est une arme.
Plus largement.
Oui. Savoir se défendre, savoir argumenter, savoir dialoguer, savoir avoir des arguments, c'est enfin, l'éducation, mais l'éducation, être autodidacte, hein, on peut être éduqué autodidacte, enfin, mais oui, le savoir juridique est une arme, Rogui le dit très bien, je trouve que c'est un moment magnifique où elle parle de sa maman, voilà, c'est une belle jeune femme hyper intégrée maintenant en France et même à l'international, quand on voit le parcours parcouru, enfin le chemin parcouru, c'est formidable.
Et vous-même, vous êtes sentie comme ça, un petit peu laissée sur le bas-côté en tant que justiciable, mais non juriste ? Comment vous avez appréhendé ce monde du droit ?
Écoutez, en fait, j'écoute beaucoup, je suis quelqu'un qui écoute, c'est peut-être pour ça que je suis derrière une caméra, voilà. Donc, je dirais que ce film m'a permis de formaliser, effectivement, ce que disait Antoine tout à l'heure, la différence entre le droit et la justice, comme tout citoyen qui attend la justice. La distinction maintenant est très claire pour moi. Mais voilà, je pense que j'ai la chance d'avoir déjà un certain nombre d'armes. même si j'ai un peu fait le même style de parcours, hein. Mon attachement à ces jeunes étudiants de Seine-Saint-Denis, j'en viens, enfin voilà, j'y suis née, je viens d'un milieu modeste et je suis bien consciente du parcours, de la nécessité de trouver ses armes pour évoluer dans cette société.
Et le cinéma a été un refuge pour vous ?
Oui, certainement. Une façon d'aborder le monde, de le comprendre. Là, je vais citer quelqu'un d'autre, mais dans ma fuite, je cherche une arme. Voilà, c'est Gilles Deleuze qui a été extrêmement formateur pour moi en matière de cinéma.
Vous avez lu ses ouvrages ?
Oui,
vous les relisez régulièrement ?
Non, c'est une période de ma vie. Je pense que voilà, on a des étapes dans la vie, toute cette période de plongée dans le cinéma d'auteur, de lecture intense. Alors pas seulement du cinéma, j'ai beaucoup lu Lévinas, je pense que dans ce film, enfin ce film ne serait pas tel qu'il est si j'avais pas été profondément marquée par Lévinas. Mais voilà, ça c'est une, j'ai envie de dire que ça s'est accumulé, stratifié, je travaille avec mes acquis, on va dire.
Oui, parce qu'on n'a pas parler de votre parcours de documentariste. Vous avez toujours voulu être documentariste ?
Pas du tout. Non. Je suis totalement autodidacte. J'ai un parcours, je viens pas du tout de là. Je disais donc, mes origines, j'en ai un peu parlé, mais voilà, j'ai fait des études parce que je savais pas quoi faire. En fait, j'étais un peu paumée à 17-18 ans. J'ai fait une prépa HEC. Je suis diplômée d'une grande école de commerce. Voilà, il faut pas le dire.
On n'en trouve pas les traces. film.
Et j'ai fait un pied de côté.
Sauf peut-être la capacité à rechercher des financements.
Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, faut arriver à écrire son projet de manière, je sais pas comment dire, juste, mais dans le sens pas d'une justice, mais d'une justesse pour arriver à convaincre en fait. Et ça, je sais pas si ça s'apprend, mais voilà, faut y arriver. C'est ça l'objectif en fait. Mais voilà, c'est pour arriver à convaincre en fait. Mais voilà, je suis en matière de cinéma. Je suis totalement autodidacte, à part cette formation d'ingénieur du son que j'ai fait il y a très longtemps. Un jour, j'ai pris une caméra et puis on apprend en faisant. Et en observant les autres, bien sûr,
beaucoup de films, oui. L'œil se fait en regardant beaucoup de films. Alors, quels sont vos cinéastes de prédilection?
Oula, ça serait difficile de résumer. Il y en a beaucoup en fait.
Ça dépend des périodes.
Oui, je pense que ça dépend des périodes. Actuellement, je vois pas beaucoup de films, pour tout vous dire.
Parce que vous avez un projet.
Non, parce que j'accompagne celui-là et que c'est beaucoup de temps, parce que oui, voilà, oui, c'est un film qui demande beaucoup d'accompagnement. Mais je vais repartir des origines, Bresson, voilà, Bresson, Rossellini, je sais pas, il y en a eu tellement, Scorsese, enfin c'est très disparate en fait, Dreyer, Bergman, Murnau, enfin bon, là je pars très loin, mais voilà, il y a eu tellement de cinéastes. Que j'ai adoré découvrir et travailler, en fait. C'était aussi regarder les films en les revoyant, en les analysant, etc.
Séquence par séquence.
Voilà, etc. Le montage. Ouais.
Comme les grandes œuvres, il faut les voir plusieurs fois.
Tout à fait.
Pour les bien.
Ça me fait penser à Eyes Wide Shut. Quand on dit ça, parce que la première fois que j'ai vu, j'ai rien compris. Et la deuxième fois, je l'ai trouvé prodigieux.
Le dernier film de Kubrick.
De Kubrick.
De Stanley Kubrick. Vous nous parlez de cet accompagnement du film, mais est-ce que vous avez un projet d'écriture en parallèle, quelque chose qui est dans un tiroir?
Absolument pas en ce moment. Je suis désolée de décevoir là-dessus, voilà, c'est en fait, si on veut raconter brièvement l'histoire du film, c'est un film droit dans les yeux, devait sortir au cinéma de manière tout à fait traditionnelle avec un distributeur national, etc. Le Covid a fait que les cinémas ayant été fermés, les distributeurs ont dû faire des choix et donc le distributeur a abandonné ce film. Donc du coup, avec la production, on l'a sorti tout seul, mais on s'improvise pas. C'est un énorme travail qu'on a fait de manière très artisanale en n'ayant pas les filières, enfin voilà, en n'ayant pas les contacts. Donc ça a été un gros travail. Là, j'accompagne encore le film tout ce mois de novembre où il y a beaucoup de projections, un petit peu encore en 2024, bien avec grand plaisir. Mais je vais surtout avoir besoin de me reposer avant de trouver la place, de trouver l'espace libre pour travailler sur un nouveau projet.
Dans son documentaire précédent, La vie murmurée, vous l'aviez co-réalisé.
Tout à fait, avec Gilles Thionnet qui avait amené ce projet. La vie murmurée, c'est un film qu'on a tourné donc au Japon, à propos d'un écrivain japonais extrêmement célèbre, enfin culte au Japon, qui s'appelle Osamu Dazai, à la française, prénom, nom, qui est un écrivain culte suicidé en 1948. Et en fait, Gilles était, entre guillemets, amoureux de cette écriture. Il avait une fibre très proche, personnellement, de ce qu'écrit cet écrivain assez sombre. Et du coup, on est parti au Japon travailler sur ce film. Et on a fait ce qu'on appelle un film choral, mais où en fait, chacun des protagonistes du film se... incarne une partie de l'écrivain dont l'œuvre est elle-même autobiographique. Enfin voilà, ça c'est un petit peu une mise en abîme. Donc c'est effectivement un projet qu'on a réalisé à deux avec une grande part d'affect de la part de Gilles et puis un petit peu de mise à distance de ma part.
Et cette idée de travailler en duo, c'est quelque chose que vous pourriez refaire?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on avait en fait un autre projet toujours au Japon avec Gilles. Quand est arrivé le Covid, on avait commencé à tourner. Après, ça dépend des problématiques. Voilà, c'est tout à fait. Il y a des choses qui sont plus personnelles que d'autres.
Parce que moi, vous m'avez cité un certain nombre de cinéastes, mais il ne me semble pas avoir entendu de noms de cinéastes japonais. Pourtant, ils ont des très grands.
Il y en a plein, oui. il y a des... ça ne me vient pas comme ça, en fait. J'ai pas une très bonne mémoire des noms. Donc, mais si je vous dis les plaisirs de la chair, vous allez me dire qui c'est, non?
Les plaisirs de la chair, non, celui-là, voilà, je ne le connais pas, voilà.
Je m'y perds, voilà. L'anguille.
Oui, l'anguille, c'est Imamura.
Imamura, mais bon, enfin, voilà, oui, il y a de très grands réalisateurs japonais, c'est sûr. D'autres moins connus, d'ailleurs, mais bon.
On va peut-être écouter un dernier extrait.
J'aurais dit des trucs qui m'auraient peut-être pas plu, mais si ça...
Non, mais au fond, t'aurais pas trouvé ça juste.
Mais moi, je te dis pas si c'est juste ou pas, c'est que c'est comme
oui,
ça.
Oui, mais c'est... T'es obligée quand même, à l'intérieur de toi, tu...
Même si je me dis ça à chaque fois, je fais plus droit.
Non, non.
Ah bah si, franchement, je ferais plus droit, à moins de me lancer dans la politique, mais bon, c'est dommage pour changer ça, mais sinon, j'ai pas d'autre choix, tu vois.
Alors, ce dernier extrait, est-ce que vous avez l'impression qu'il résume un petit peu tout le propos du film? Où se situe le droit, où se situe la justice? Est-ce qu'on peut également agir sous l'angle simplement politique, Antoine?
En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas aseptiser toutes ces notions, qu'elles se poussent toutes les unes contre les autres ou sur les autres. Mais c'est vrai, si on veut... militer pour une cause, chercher la justice, du coup, défendre son propre jugement de valeur de la justice. Peut-être que la politique s'est adaptée, mais finalement, un avocat pour qui on a cité les armes qu'il avait, de traduire un récit en prétention et moyens juridiques, est-ce qu'en choisissant ce qu'il veut traduire, il ne s'implique pas, il ne pousse pas vers quelque chose, ou alors d'essayer de le traduire d'une manière telle qu'on apprend à regarder différemment ces histoires-là? Est-ce que ce n'est pas un petit engagement politique? Donc finalement, est-ce que c'est si aseptisé? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est si imperméable, ces notions-là? J'en suis pas sûr. Donc en fait, il est très intéressant ce petit dialogue, parce que... parce qu'elles ont toutes les deux raison et elles ont toutes les deux tort. je pense qu'on peut, s'impliquer dans la défense de ses propres idées en faisant de la politique ou en faisant du droit, oui. Tout comme peut-être s'y perdre ou voilà. Enfin, par exemple, je dis ça. Moi, j'ai une copine avocate. Qui a travaillé dans un cabinet qui défend les femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est une problématique juridique qui se traduit en vraie demande faite devant un juge aux affaires familiales ou des fois devant un juge correctionnel ou devant un juge aux enfants. Mais choisir cette matière, est-ce que c'est pas une position politique avec une cause qui prend une place dans notre société extrêmement importante, et est-ce que c'est pas un sujet qu'il faut traiter les deux, le débat judiciaire sert le débat politique. Voilà, donc je pense qu'il y a des grandes connexions, et en fonction de son affinité, peut-être que Rougui serait plus juriste et son prénom m'échappe.
Merci, Laure.
Et Nancy Laure serait plus politique, voilà. Peut-être que dans le langage et les différences que ces langages ont, peut-être qu'elles auraient chacun une piste différente. Voilà.
Peut-être aussi que l'expérience de la clinique juridique, puis l'expérience du tournage, et puis vous l'avez dit pour ce qui vous concerne, accompagner plusieurs fois le film, vous a permis aussi d'y voir plus clair dans votre propre cheminement.
Et je pense qu'il faut rappeler que moi-même, je sortais de mes études en Master 2, qu'on est très jeune, et que j'étais une des personnes qui était allé le plus loin dans son cursus universitaire, parce qu'en réalité il y avait également des étudiants qui étaient en L2 ou L3, et il faut rappeler que des études de droit, on commence à rentrer dans le fond des problématiques qu'on évoque là après 2-3 ans. Les premières années, c'est de l'introduction à certaines matières, les deuxièmes on pose des bases, la troisième on commence à parler de certaines matières, et ensuite on choisit un master qui nous permet d'approfondir les matières qu'on décide d'approfondir. Mais ces discours d'étudiants, c'est des pensées en formation.
La plupart des étudiants du film sont en troisième année, ouais.
Et je pense qu'on est toujours une pensée en formation, là encore plus.
Oui.
Eh bien, c'est sur cette ouverture, en réalité, pensée en formation, dans laquelle nous sommes toujours, Marie-Francine, Antoine et moi-même, que nous allons conclure. Merci de nous avoir accordé ce temps pour ces trois épisodes autour de votre film, Marie-Francine Le Jalut, Droit dans les yeux. Documentaire donc, qui continue sa vie en salle et sa rencontre avec les publics. Merci Antoine de Flandre pour nous avoir accompagnés dans le décryptage de l'étudiant qu'il était et dont il garde quelques traces. Et merci à Léobardo Arango pour la qualité de ses enregistrements. Bon visionnage, au revoir à toutes et à tous.